Nous allons aborder aujourd'hui un passage. Il est possible que nous y revenions plusieurs semaines de suite, parce qu'il est tellement, tellement riche, tellement beau. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Nous allons nous concentrer ce matin sur les versets 15 à 20. Chapitre 1, versets 15 à 20. Lisons-le ensemble. Il est question du Fils bien-aimé de Dieu, de Jésus-Christ. Et Paul continue en disant « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Je veux dire, juste avant de commenter ces versets, je veux souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui sont là peut-être pour la première fois, aux personnes qu'on voit de temps en temps. On tient aussi à exprimer à la famille de Marion toutes nos condoléances pour le décès de ce jeune cousin qui est mort tragiquement dans un accident de voiture. Et On prie pour lui, on prie pour sa famille. Lui, on prie plus pour ceux qui sont déjà partis, mais on prie pour ceux qui sont là, pour qui la foi peut être en question et la douleur de l'absence. Donc soyez assurés de nos prières. Ces quelques versets que nous avons lus, en fait, certains pensent que c'était un hymne, un chant. Ce serait bien de retrouver l'enregistrement, le CD ou le MP3 de ce chant. Peut-être que ça peut être un défi pour des musiciens parmi nous de mettre ces choses en paroles. Et c'est vrai que dans le chant, il y a une façon de se remémorer des textes ou des... C'est fou ce qu'on peut connaître comme paroles de chant païens ou non chrétiens qu'on entend, et après on se dit pas capable d'apprendre des versets bibliques. Souvent les mettre en musique et les apprendre avec de la musique, ça peut permettre. Donc c'est un petit défi que je vous lance. Si quelqu'un peut mettre en parole les versets 15 à 20, ça sera merveilleux. Paul, vous vous souvenez? Il est dans un contexte difficile, il écrit à des chrétiens qui sont dans un contexte difficile, et il y a ce qu'on appelle l'hérésie, une hérésie à Colosse, qui était cette ville d'Asie mineure, dans laquelle il y avait notamment une fausse doctrine, le gnosticisme, qui vient du mot gnos ou gnosko, qui était une doctrine dans laquelle il fallait atteindre un certain niveau de connaissance pour connaître Dieu. Et il y a souvent le reproche qui est fait à la foi chrétienne d'être trop simple. Je parlais avec une étudiante, on faisait un sondage avec plusieurs le jeudi dernier, et j'étais frappé par les mots qu'elle a dit à la fin. Les questions conduisent à une courte présentation de l'Évangile, disant que Dieu nous a créés, nous nous sommes rebellés, Dieu doit détruire le péché, mais la bonne nouvelle c'est qu'il aime le pécheur et qu'il est venu nous sauver par la personne de Jésus-Christ, et qu'il suffit de mettre notre foi en lui pour être sauvé et pour avoir une transformation de vie. Donc en quelques questions, en quelques minutes, on peut présenter ainsi l'essence de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et je parlais avec cette jeune fille qui ne croyait plus en Dieu, qui admettait que peut-être elle ne priait plus, mais que des fois elle criait vers quelqu'un. Je dis, c'est déjà le début de la prière. C'est pas encore prier, mais crier, c'est pas loin. Mais elle voulait rien entendre. Et à la fin, je lui pose la question, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Pour vous, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? Alors, j'en ai aucune idée. Et je dis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui vous aime. Et il y avait ses amis qui l'appelaient parce qu'il était un peu tard. Et elle a dit, oh non, non, non. J'ai dépassé l'âge de croire ces choses. Et j'ai, mon cœur s'est vraiment attristé. Je lui dis, mais il n'y a pas d'âge pour une bonne nouvelle, c'est la vérité. Et l'idée que c'est trop simple, et un Dieu qui nous aime, et que c'est pas bien en ce moment, mais un jour ça sera bien, c'est de l'opium pour le peuple, ça, c'est pour permettre, c'est ce que disait Marx, ce qu'on m'a dit. Et là, en fait, trop souvent, on cherche à compliquer les choses. On a l'impression que si c'est compliqué, c'est plus intellectuel, donc ça va être plus vrai. Les choses véritables sont simples. Je me rappelle pour la découverte de l'ADN, la structure de l'ADN, Crick et son collègue, dont le nom m'échappe. Watson, merci, on a des scientifiques. Crick et Watson à essayer de construire des modèles pour créer un modèle qui représente qui corresponde à ce qu'ils voyaient dans les expériences qu'ils faisaient sur l'ADN, c'est la structure de la cellule. Et à un moment, ils avaient trouvé une structure et dans un film, un documentaire très intéressant qui était passé sur Arte, ils avaient reproduit justement ces modèles. Il y avait des trucs, on aurait dit des espèces de tours Eiffel qui partaient dans tous les sens. Et il y a un moment, il y a ce qui les a guidés vers une solution plus vraie, c'est qu'on dit c'est trop compliqué. C'est à la fois le monde tel que Dieu l'a créé, il est très complexe, mais Dieu n'est pas un intellectuel qui cherche des arcanes et des choses complexes pour nous perdre. Nous cherchons parce qu'il y a des choses à trouver, mais surtout ce qui est beau, c'est que l'évangile, un enfant peut le comprendre. Et le plus grand des philosophes, le plus grand des chercheurs peut aussi être touché par cet évangile. J'ai envoyé à quelques-uns des textes trouvés dans le journal du Monde du 27 novembre. Je ne sais pas si vous avez reçu, vous avez eu le temps de lire les articles, mais c'est des professeurs au Collège de France qui refusent la doctrine stupide de la création. Quand on leur demande leurs théories, elles sont encore plus complexes et plus imbéciles que tout ce que vous pouvez imaginer. Avec tout le respect qui leur est dû, lorsqu'il est question des choses profondes et vraies, ils sont à 100 lieues, à 1000 lieues de la vérité. Je souhaite la bienvenue aux parents de Corinne aussi. Ce matin, je suis un peu fatigué. Ça va être un peu disjoint. Cette simplicité, elle est résumée dans ce que Paul nous dit dans ce petit hymne à la gloire de Jésus. J'étais touché parce que ce que disait Philippe tout à l'heure, lorsqu'en Algérie on dit que dire du bien de Jésus, c'est considéré comme un blasphème contre Mohammed. La personne, apparemment, n'a pas blasphémé contre Mohammed, elle a simplement dit la vérité sur Jésus. Et c'est exactement ce que Paul va faire. Il est dans une époque où il y a des fausses doctrines, on a parlé du gnosticisme, de cette gnose, cette connaissance supérieure qu'il faut atteindre, alors que la simplicité de l'évangile, elle est là. Et Paul, au lieu de dire que le gnosticisme, c'est de la folie, c'est une fausse doctrine, de l'attaquer bille en tête, il va simplement parler de la vérité, il va simplement parler de Jésus, de sa beauté, de son amour. Je crois que c'est un conseil, c'est une approche pour nous tous à suivre. Si on va voir nos amis musulmans en leur disant que Mohammed est un hypocrite, que Mohammed est moins que rien, si on blasphème Mohammed, on n'arrivera à rien. Par contre, si on laisse Mohammed de côté, on laisse Bouddha de côté et on parle de la vérité, Ce qui compte, c'est de connaître la vérité. C'est pas de connaître. Il y en a qui disent qu'ils veulent apprendre toutes les religions du monde avant de choisir la leur. Je leur dis bon courage et j'espère que vous aurez de nombreuses années devant vous pour étudier toutes les stupidités qui peuvent être dites, annoncées de par le monde, dans l'histoire du monde. Concentrons-nous sur Jésus-Christ. Juste un petit rappel, les gnostiques disaient qu'en fait, la matière est vile, seul l'esprit est glorieux, pur, et qu'en fait, Dieu ne pouvait pas avoir créé le monde et la matière parce qu'il se serait en quelque sorte sali les mains. Et donc Dieu avait procédé, la création avait procédé par des émanations de Dieu. Donc Dieu ne travaillait pas directement, il envoyait un autre approche de lui-même, un sous-Dieu, qui lui-même... Donc il y avait des émanations, on parle aujourd'hui d'émanations d'essence, c'est-à-dire qu'il y a un pot d'essence ici, mais un peu plus proche, ça sent assez fort, et puis même quand on entre, on dit tiens... Et donc c'est des émanations, c'est quelque chose qui est envoyé, mais qui n'est pas le produit lui-même, ou qui n'est pas la personne elle-même. Et donc Dieu avait créé, il y avait eu finalement un Dieu assez loin de lui pour pouvoir se salir les mains et créer le monde, la matière, qui sont viles, qui sont entachées de péché. Et cette doctrine, ça l'a débouché sur deux choses qui étaient aussi mauvaises l'une que l'autre. La première, c'était de ne rien toucher de la matière, c'était ce qu'on appelle l'ascétisme. Et donc ça consiste à se priver des choses matérielles, à jeûner, à vivre dans le dénuement, à même rechercher la souffrance physique pour la souffrance physique, pour on se flagelle pour dire non à la matière, non au matériel, non au charnel. Et puis l'autre, c'était le laisser aller total, puisque il y a l'esprit qui lui nous permet d'être en relation avec Dieu, et de l'autre côté il y a la matière qui est vile de toute façon, qui ne peut pas être rachetée. Alors avec la matière, avec notre corps, on peut faire n'importe quoi, et ça conduisait à la plus grande des licences, à une vie licencieuse, à l'immoralité complète. Et là aussi, c'est ce que Paul va adresser, il va parler de ces choses-là, sans les attaquer directement, simplement en disant « Qui est Jésus ? Qui est Jésus-Christ ?» Alors nous allons rapidement, parce que le temps avance, ce matin nous allons voir dans ce passage qui est tout à la... Le sujet, le thème, c'est la prééminence de Christ. Si vous voulez résumer ce passage, ces cinq versets ou quelques versets, ça se trouve au verset 18, il est en tout le premier. Il est en tout le premier, il est prééminent, il est souverain. C'est ce que veut dire le mot souverain, qui vient du latin, qui veut dire au-dessus de tous, au-dessus de tout. Il commence par nous dire qu'il est l'image du Dieu invisible. L'image. Aujourd'hui, nous parlons des icônes qui se trouvent sur nos écrans d'ordinateur. On connaît le mot icône pour les dessins d'origine orthodoxe. Dans la foi orthodoxe, il y a des icônes. Le mot icône, le mot image vient de ce mot grec, icône, iconos, qui veut dire deux choses en fait. La première chose, c'est une icône, c'est une similitude, c'est quelque chose qui ressemble de façon très précise à une autre chose. Ainsi, sur une pièce de monnaie, sur certains de nos pièces jaunes même nos euros, il peut y avoir une représentation d'une personne, du roi des Belges ou du roi des Espagnols. C'est une similitude, c'est une image. L'autre aspect de ce mot, c'est une manifestation. Manifestation dans le sens où Dieu est pleinement révélé en Jésus-Christ. Vous entendez des clés dans ma poche, mais vous ne les voyez pas. C'est lorsque je vous les montre que vous voyez la manifestation de ces clés. Jésus lui-même a dit, vous vous souvenez, dans Jean 14, il s'est indigné d'ailleurs envers le pauvre Philippe qui nous sert d'exemple. On aime bien sourire des maladresses des disciples qui font un petit excès de zèle ou qui croient avoir trouvé une question, un peu comme en classe, il y a des fois des enfants qui posent des questions pour essayer de se mettre en valeur. Et pof, ça, le Seigneur les reprend avec grâce, humour des fois, mais toujours avec amour. Jésus vient de faire cette déclaration sublime qui dit « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et ça me suffit, ça nous suffit. » Jésus le reprend « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Là, il continue. Mais il a réagi en disant « Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Parce que ce que Paul est vrai, nous dit est vrai, il est l'image. Non seulement il est semblable, mais il est parfaitement semblable et il est la manifestation exacte de Jésus, de Dieu. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Nous avons chanté ce Dieu mystérieux qui nous dépasse parce qu'il est une seule personne en trois. Il est un seul Dieu, pardon, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce concept de la Trinité, de ce Dieu en trois personnes, il n'est pas... Le terme ne se trouve pas dans la Bible, mais dès le commencement de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot Dieu, c'est déjà le mot Elohim, qui est un mot pluriel. Cette Trinité, elle est déjà évoquée et elle est affirmée tout au long de la parole, tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a souvent l'idée que dans l'Ancien Testament, Dieu a été visible. Moïse ne l'a-t-il pas vu ? Abraham ne l'a-t-il pas vu ? En fait, Dieu s'est manifesté, et je crois déjà dans ces passages, c'était une apparition, une présence de Christ préincarné. C'est lui qui est l'ange de l'Éternel dont il est question dans plusieurs passages, nous en avons parlé en étudiant dans notre survol de la Bible, que souvent Jésus-Christ s'est manifesté avant son incarnation à Bethléem, avant de venir sur terre vivre pendant plusieurs années. Par moments, il avait cette possibilité d'apparaître, et je crois que nul n'a jamais vu Dieu, mais par contre, certains ont vu Jésus-Christ incarné ou préincarné. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Un esprit n'est pas visible, mais un esprit peut se manifester et cette parfaite manifestation, cette image, cette similitude parfaite, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez savoir comment Jésus-Christ traite les enfants, comment Jésus-Christ traite les femmes adultères, comment Dieu traite les femmes adultères, comment Dieu traite les enfants, il vous suffit de lire, de savoir comment Jésus-Christ à traiter ces mêmes personnes. Son amour, sa compassion, sa réaction devant l'hypocrisie des gens qui se disent religieux. Ce n'est pas seulement la personnalité de Jésus-Christ qui s'exprimait, c'était la réalité du caractère de Dieu en action. Si Paul avait voulu dire que Jésus était seulement similaire au Père, il aurait pu utiliser un autre mot grec qui est parfaitement adapté à ce genre d'expression. Mais le fait qu'il ait utilisé le mot d'icône, d'image, ça veut dire que vraiment, Jésus est Dieu aussi bien que Dieu le Père est Dieu. Ça veut dire que Jésus, c'est le comme l'impression de Dieu le Père. Dieu est invisible, on ne peut pas le connaître, mais on peut voir Jésus-Christ dans la parole, et pour les quelques-uns qui l'ont connu en personne. Pour les Grecs, il y avait un mot très important qui était le mot « logos ». Pour eux, le mot « logos », c'est l'intelligence, c'est le raisonnement, c'est la logique. D'où vient le mot ? C'est le verbe incarné. C'est le terme utilisé dans l'évangile de Jean. Et cette image du « logos », il y avait un philosophe juif, Philo, qui utilisait le même mot d'image, d'icône. Donc il y a toutes ces faisceaux de preuves pour dire qu'en fait, Jésus-Christ, il est l'image, il est l'exacte représentation. Le voir, c'est voir Dieu le Père. Il est le premier-né de toute la création. Alors c'est un passage que les sectes utilisent pour dire qu'en fait, s'il est né, s'il est le premier même de ceux qui sont nés, ça veut dire qu'il n'est pas éternel, ça veut dire qu'il n'est pas, il ne peut pas être Dieu. En fait, le mot qui est utilisé de premier-né, c'est là aussi un mot grec, prototokos, qui veut dire, qui parle surtout de, qui peut parler de la priorité dans le temps, mais qui exprime surtout la suprématie au niveau du rang. Le premier-né, c'est pas celui qui a été créé en premier, c'est une forme d'exaltation, c'est l'héritier qui est prééminent quand on parle du premier-né. Mais l'aspect qui est à retenir dans l'expression dans ce terme grec, c'est cette prééminence, c'est ce grade supérieur à tout le reste. Il y a même des rabbins juifs qui, dans leurs écrits, disaient que Yahweh était le premier-né du monde. Et là, il n'est pas question de dire qu'il était né de quelqu'un ou à un moment donné. Il était question de dire qu'il était suprême. C'est un terme qui exprime le rang, la suprématie, la gloire de quelqu'un, premier-né. Et donc, ne vous laissez pas influencer par les témoins de Jéhovah et d'autres sectes qui disent que là, c'est la preuve qu'il ne peut pas être Dieu s'il a été créé, s'il est né à un moment donné. Alors les gens disent, mais pourtant on célèbre la naissance de Jésus-Christ à Noël, on sait que c'est une fausse date, etc. On célèbre la naissance, son incarnation à Bethléem, pendant la période où il est venu vivre parmi nous, mais Jésus-Christ a existé de toute éternité. Certains disent, mais s'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il a commencé. Non, s'il est le fils, pour être le fils éternel du Dieu éternel, il faut que lui soit fils éternel. Pour être le fils du Dieu éternel, il faut qu'il ait été lui aussi éternel, qu'il soit éternel. Il est de même que Dieu, il n'a pas commencé tout à gauche de la ligne de l'abscisse des temps. Il a existé en dehors du temps depuis toujours. Alors là, c'est difficile à saisir toutes ces choses, mais simplement un enfant comprend. Il est le premier-né de toute la création. Et Paul confirme, parce qu'il est dit, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Des fois, on a l'impression, on lit la Genèse, où Jésus n'apparaît pas tout de suite, il apparaît très tôt. Dès le chapitre 3, dès les généalogies du chapitre 5, mais dès le départ, on dit Dieu créa les cieux et la terre, on dit ça, c'était Dieu le Père. Non, c'était Elohim. C'était Dieu pluriel. Et l'agent de la création, ici, ça nous est expliqué, c'est Jésus-Christ qui a créé tout. Il a tout créé. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Paul, sans attaquer le principe des émanations, pas des émanations de gaz, mais des émanations gnostiques, dans lesquelles il y avait des successions d'êtres qui s'éloignaient assez de Dieu pour pouvoir toucher la matière vile sans que Dieu soit affecté par cette putréfaction, cette chose vile qu'est la matière. Il parle des anges et il dit que les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs, ça nous rappelle, vous vous souvenez, Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Nos combats en Algérie, en France, c'est pas contre les musulmans, contre les employés de la préfecture qui font des difficultés pour les visas, que ce soit ici ou partout ailleurs. Nous avons à lutter non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ça, c'est tous les anges démoniaques, toutes les créatures célestes qui sont dans le camp de Satan qui s'est rebellé contre Dieu, qui a voulu usurper sa gloire, qui veut recevoir l'adoration qui n'est due qu'à Dieu, et qui a emmené tout un tas d'êtres créés par Dieu, des anges qui se sont aussi rebellés. Et c'est ce dont Paul parle ici, lorsqu'il parle des trônes, des souverainetés, des principautés, des pouvoirs. Même ces choses-là ont été créées par Jésus. Tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Les gens vous disent, moi je crois qu'à ce qui est visible. Alors je dis, je vous interdis alors, en vertu de votre déclaration, de regarder la télévision. Je vous interdis d'écouter la radio. Vous ne croyez pas à ce qui est invisible et pourtant vous faites confiance aux ondes électromagnétiques qui vont chauffer votre café dans le micro-ondes. Est-ce que vous les voyez, ces ondes? Regardez bien à l'intérieur le matin quand votre café chauffe. Est-ce que vous ne croyez pas à l'invisible? N'ayez pas peur de montrer aux gens, gentiment, de les faire réfléchir en leur montrant les absurdités qu'ils prononcent par tradition. Je crois qu'à ce que je vois. C'est faux! Sinon, vous ne pourriez plus faire ces choses-là. Chauffer un café par un micro-ondes, regarder la télé. Où elles sont ces ondes? Cette salle est remplie de langage chinois. C'est pas parce que Charmant est en train de parler. On les entend pas, ces voix. Il suffit d'avoir le récepteur et d'un seul coup, on pourrait écouter Radio Beijing et seul Charmant pourrait nous dire ce qu'ils disent. Mais encore une fois, ne vous laissez pas intimidé parce que les gens vous disent « Mais toi, tu crois dans un fantôme, tu crois à l'imaginaire ?» Non, invisible ne veut pas dire imaginaire. préciser aux gens que imaginaire et invisible, c'est deux choses complètement différentes. C'est simple, et pourtant, on est des fois, ah oui, je sais, ben, il faut avoir la foi, j'ai été touché, et je vois tout ce que Dieu fait dans ma vie. C'est bien de témoigner comme ça. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'affirmer votre foi et de, même contre les professeurs de fac qui vont se moquer de vous, qui vont rire parce qu'il y en a quatre dans une salle de 200 qui disent que leur livre préféré, c'est la Bible. N'ayez pas honte, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Votre position en Christ, elle est plus logique que votre position dans l'athéisme ou dans l'évolution. Encore une fois, on voit les professeurs qui refusent, qui s'arc-boutent, pas parce qu'ils ont des preuves scientifiques, il n'y a pas eu une création, mais parce que s'ils admettent que l'évolution est fausse, alors Dieu rentre dans le périmètre de leur conscience, et d'un seul coup, ils se retrouvent à avoir des responsabilités vis-à-vis d'un Dieu qu'ils ne veulent pas obéir, à qui ils ne veulent pas obéir, à qui ils ne veulent pas rendre des comptes. C'est pas de la science, c'est de l'incroyance. Tout a été créé dans les cieux et sur la terre par Jésus-Christ. Et il nous dit, il va plus loin, il dit, tout a été créé par lui, et tout est créé pour lui. Si vous êtes là sur terre, c'est parce que c'est lui qui vous a créé. Et si vous êtes là sur terre, c'est parce qu'il vous a créé pour lui. Et vous allez pouvoir cavaler dans toutes les directions, essayer de trouver le bonheur, un sens à votre vie, essayer de trouver une raison de vivre. Si vous n'allez pas à lui, je suis désolé, vous allez pouvoir vous divertir pendant des années, peut-être des dizaines d'années, peut-être toute votre vie, mais je peux vous garantir que c'est qu'en lui que vous allez trouver votre raison d'être. Parce qu'elle est là, elle est annoncée, nous sommes créés pour lui. Et lorsqu'on réalise cela, on ne vit plus pour soi, on veut vivre pour lui. On s'oublie, et c'est quand on s'oublie qu'on vit le mieux. On cherche de penser à sa petite personne, on cherche d'avoir toujours raison dans nos disputes, dans nos conversations. On arrête de chercher notre propre intérêt. Et là, on diffère de tous les autres. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Est-ce que nous ne pouvons pas lui faire confiance pour tout nous donner aussi? On peut s'abandonner à lui. On peut lui faire confiance pour pourvoir pour nos besoins physiques, pour pourvoir pour nos besoins émotionnels. On a beaucoup de jeunes qui aimeraient trouver l'âme sœur. Hier soir, je priais avec un jeune homme qui avait une déception et je lui disais, tu peux faire confiance au Seigneur. S'il a mis ce désir d'avoir un compagnon, une compagne dans ta vie, ou un compagnon pour les filles, pas de mélange des genres, c'est pas selon sa volonté non plus. Il veut vous bénir. Et vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous abandonner à lui, ne pas dire l'horloge biologique est en train de faire tic-tac. Cette famille de 12 enfants que je voulais, comment on l'a commencé après 25 ans? Ah, oh, là, 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 là. Où il est, monsieur parfait? Vous pouvez faire confiance à Jésus pour vous donner la personne qu'il a pour vous. Priez pour cette personne. Les chances sont qu'elle est sans doute déjà née si vous avez 25 ans. Ah, on connaît des hommes qui épousent des femmes beaucoup plus jeunes ou des femmes qui ont épousé, mais enfin, en général. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est pas un passage comme ça, un passage pris au hasard. C'est un thème qu'on retrouve dans toute la Bible, qui apparaît dans l'Apocalypse. Chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Si vous aimez bricoler, vous savez que il n'y a rien de plus frustrant que d'utiliser un tournevis pour essayer d'enfoncer un clou. De ne pas utiliser le bon outil. De ne pas utiliser un marteau pour faire une cale. Les choses marchent bien lorsqu'elles elles marchent, elles font ce pourquoi elles ont été créées. Et lorsqu'on cherche à vivre en dehors de ce plan de Dieu qu'on est créé pour lui, pour son service, pour le connaître, pour l'aimer, pour recevoir de lui, pour donner avec lui, on est comme un tournevis qui joue au marteau. On se fait mal, ça avance pas, on fait rien, on est frustré. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il reprend les paroles de cet hymne. On pense, on n'est pas sûr que c'était un hymne. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Les témoins de Jéhovah, vous savez, ont une version de la Bible qu'ils ont concoctée pour être en accord avec leur doctrine. Et la meilleure façon de leur montrer, encore une fois, n'attaquez pas billes en tête en disant que ce sont des gens perdus. Parlez-leur de la vérité, de l'amour de Christ. Mais vous pouvez leur montrer dans leur texte même. Ils disent que il est avant toute autre chose. Et le mot « autre », ils le mettent entre parenthèses pour reconnaître, parce qu'ils ne peuvent pas mentir quand même, trop loin. Ils ajoutent les parenthèses pour dire que le mot n'est pas dans l'original, dans le texte original. Mais puisqu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, il doit faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils rajoutent le mot « autre » dans tous les passages où il est dit que Dieu a créé toute chose, il est avant toute chose. Et là, il y a une chose formidable, c'est que tout subsiste en lui. Tout se maintient dans notre univers parce que Christ tient toute chose en main. Les scientifiques nous disent qu'on descend du singe, que rien plus le temps a donné tout. Ces mêmes scientifiques ne savent pas pourquoi l'atome n'explose pas tout seul. Vous avez fait de la physique, vous vous souvenez de la loi de Coulomb, peut-être, au moins le mot Coulomb. Il y en a qui connaissent le mot Coulomb, C-O-U-L-O-M-B. Il y a quelques gens qui ont fait un peu de science. Qu'est-ce que dit la loi de Coulomb ? Que des charges électriques de même nature se repoussent. Puis les découvertes de la science moderne nous ont fait voir qu'il y avait un noyau où il y avait des charges positives qui restaient ensemble. Alors que normalement, elles devraient s'éloigner l'une de l'autre, elles ne devraient pas pouvoir rester ensemble. Alors, à partir de cette constatation, il y a tout un tas de suppositions, il y a des choses qui permettent d'aller plus loin, mais les scientifiques les plus performants, les plus poussés, ne savent pas pourquoi on n'explose pas. Vous avez la réponse ici, verset 17 du chapitre 1 de Colossiens. Vous en savez plus aujourd'hui que les plus grands physiciens nucléaires qui ne sont pas chrétiens. C'est Christ qui a tout créé et qui tient toute la création dans sa main. Le jour où il décide de laisser aller, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est merveilleux de contempler Jésus-Christ, d'apprendre à le connaître dans toute sa splendeur. Non seulement il est le Dieu qui a créé des choses qui dépassent notre imagination. Juste quelques remarques pour terminer. Vous savez, une balle qui sort d'un canon de fusil, ça va vite. J'ai pas les chiffres, mais ce que je sais par contre, c'est penser qu'il faut être très rapide pour arrêter la balle, hein, comme David Croquette entre ses dents ou je sais pas qui. Et pourtant, nous sommes en voyage à l'heure qu'il est, assis dans nos chaises ou appuyé sur un podium. Nous sommes en orbite, nous voyageons autour du Soleil à une vitesse qui est 8 fois plus grande que la vitesse de cette balle qui sort du canon du fusil. Et pourtant, on n'est pas trop décoiffé. Les anneaux de la planète Saturne, ils font 800 000 kilomètres de circonférence, et pourtant, ils ne mesurent pas plus de 30 cm d'épaisseur. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une si grande distance qui reste plate? On a du mal avec les disques d'ordinateur à faire qu'il reste stable et qu'il n'y ait pas des ondulations. Pourtant, c'est parfaitement, parfaitement plat. Un simple chromosome humain contient 20 milliards de bits d'information, de signes d'information plus ou moins. Si on devait transcrire plutôt cette information dans des livres ordinaires, en langage ordinaire, ça prendrait 4000 volumes. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, c'est absolument fascinant. Et dire que tout est arrivé par hasard, ça demande une volonté farouche devant l'évidence. Tout a été créé par lui et c'est tout. Tout est retenu entre ses mains. Et ce Dieu si puissant, nous le verrons par la suite, ce Dieu si puissant, c'est un Dieu qui nous aime. C'est bien d'être aimé par quelqu'un, par des amis, par un époux, une épouse, un fiancé, une fiancée, des chers amis, des personnes qu'on retrouve sur Facebook, qui vous envoient un petit mot pour votre anniversaire, parce qu'ils ont été aidés par Facebook. Mais souvent, on se dit, c'est bien, bien beau d'être aimé, mais c'est pas ce qui va m'aider à réussir mon examen. C'est pas ce qui va m'aider avec mes finances. Il va m'aider à trouver un logement. Mais c'est merveilleux lorsque la personne qui vous aime a les moyens d'intervenir dans votre vie. Et Jésus qui vous aime, qui vous a créé, pour lui, par lui, il a les moyens de vous aider dans toutes les situations de la vie. Et il veut vous bénir. Encore une fois, c'est dommage qu'on ait peur du mot bénédiction parce qu'il y a cette doctrine qui dit que si on n'est pas béni, c'est qu'il faut se sentir coupable. Et encore une fois, la culpabilité n'est jamais un moteur de quoi que ce soit. Comme j'ai dit, je ne veux pas que vous veniez aux réunions de prière parce que vous vous sentez coupable, que les femmes sont en train de perdre. Pas de ce genre de choses. Mais je ne sais plus où j'allais avec ça, mais Dieu est grand. Amen. Dieu vous aime. Il est capable d'intervenir dans toute votre vie. Votre vie a été créée pour lui. Sans trouver votre identité en lui, vous allez errer, vous allez cheminer, vous allez être frustré et vous finirez loin de lui, loin de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce temps où en quelques minutes nous avons déjà pu entrevoir la grandeur de ta personnalité. Merci qu'il suffit d'annoncer qui tu es pour que tout pâlisse en comparaison, Seigneur. Apprends-nous à mieux te connaître pour pouvoir parler mieux de toi. Et c'est vrai que pour l'incroyant, dire du bien de toi, ça implicitement, ça t'élève au-dessus et en comparaison, les autres leaders religieux, les Mahomet, les Mohamed, les Bouddhas, et autres Confucius, etc. C'est comme s'ils se sentent blasphémés. Parce que toi seul es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a créés, en qui tout subsiste. Tu es l'image exacte. Te voir, c'est voir le Père. Et tu nous as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons parler de toi. Nous voulons te consacrer notre vie. Soit en travaillant comme missionnaire, comme pasteur, comme travailleur à temps plein, soit dans notre occupation, dans notre métier, en tant que mère de famille, en tant que voisin, en tant que parent. Apprends-nous à savoir parler de toi avec vérité, avec émotion dans la voix, Seigneur, parce que tu la mérites, cette émotion. Nous donnons nos émotions, nos pleurs à toutes sortes de choses qui n'en valent pas la chandelle. Je n'en vaux pas la chandelle, mais toi, Seigneur, tu es digne de toute gloire. Amen.